Une. À ma droite, Fabien Bailly, ouvrier chez OG Découpage à Besançon.
Chers camarades et amis, avant de passer la parole à notre camarade Nathalie Arthaud, je voudrais dire quelques mots sur la situation en Franche-Comté. Comme partout dans le pays, le chômage fait ici aussi des ravages. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Au contraire, c'est le résultat d'une politique délibérée, menée de concert par le patronat et l'État. En décembre, à quelques jours près, le gouvernement et PSA Peugeot Citroën annonçaient des suppressions de postes. Ce sont 331 enseignants en moins pour l'Académie de Franche-Comté, ce qui ne manquera pas de dégrader les conditions d'accueil et de travail dans les écoles touchées. Pour le site PSA Sochaux, la direction a prévu de supprimer en 2012 360 CDI. Sont aussi liquidés 460 emplois de prestataires, sans parler des intérimaires, plus de 400 d'entre eux ont été renvoyés au chômage en moins de 6 mois. En 2011, PSA a supprimé l'emploi de 330 salariés de la sous-traitance. Cela s'est fait sans bruit, car leur contrat de travail est un contrat de chantier. Il suffit aux donneurs d'ordre d'arrêter la mission qui leur est confiée pour que les salariés se retrouvent à Pôle emploi. Car les grands groupes, comme Peugeot, ont pris soin non seulement de sous-traiter le travail, mais aussi de sous-traiter les plans de licenciement. Ainsi, en 2 ans, ce sont plus de 1600 emplois qui auront été supprimés si on les laisse faire. Alors oui, le chômage est le produit d'une politique délibérée du grand patronat pour enrichir les actionnaires au détriment des travailleurs, en nous volant notre emploi et notre salaire. Les patrons prétendent que c'est la crise. Mais, par exemple, pour PSA, c'est vraiment pleurer la bouche pleine. Ainsi, 2010 a été une année de production record pour Peugeot Citroën, avec plus de 3,6 millions de véhicules produits. L'année 2011 a vu, elle, une toute petite baisse de 1,5%, due pour l'essentiel à la catastrophe de Fukushima et au défaut d'un fournisseur de vis, la société Agrati, qui a paralysé les usines de montage pendant plusieurs semaines. Cette année de crise, selon la direction, a tout de même permis au groupe d'engranger plus d'1 milliard de bénéfices, soit l'équivalent de plus de 6 000 euros par salarié du groupe. Mais ces gens-là n'en ont jamais assez, et ils en veulent toujours davantage. Le PDG, Varin, est surnommé Monsieur 9 000 euros dans les ateliers. Non pas parce qu'il gagne 9 000 euros par mois, non, mais c'est chaque jour, week-end compris, qu'il les empoche. De leur côté, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance de PSA se sont augmentés, eux, de 80% entre 2009 et 2010. Cela alors que ces messieurs décidaient des augmentations ridicules pour les salariés du groupe en expliquant, la main sur le cœur, que c'est la crise. Dans cette débauche de hauts revenus, il ne faut surtout pas oublier les principaux bénéficiaires. La famille Peugeot, pour elle, cela se chiffre en millions. L'an dernier, elle a accru sa fortune à 2 millions d'euros chaque jour de l'année, de quoi permettre de verser un salaire à 30 000 travailleurs. Alors, il est vraiment choquant d'entendre la direction de PSA comme l'ensemble du patronat, pleurer misère en expliquant que c'est la crise. Voilà les gens qui osent dire que le travail coûte trop cher en France et que, à cause de cela, les usines ne sont plus compétitives. On assiste, en effet, à une véritable campagne, à une véritable offensive contre les revenus des travailleurs. Et il ne manque pas d'experts, bien payés, de spécialistes de l'économie, tout juste bons à prévoir ce qui s'est passé hier. Pour décliner sur tous les tons cette campagne contre le prétendu coût du travail qui poserait un problème de compétitivité et qui serait responsable des fermetures d'usines. Parler du coût du travail est une réelle absurdité. Le travail ne coûte pas, il rapporte. C'est même la seule chose qui rapporte. Le travail des salariés, c'est lui qui crée toutes les richesses des entreprises, toute la richesse de la société. Alors ceux qui coûtent cher, ce sont les parasites, les gros actionnaires, le grand patronat qui se gave de milliards de dividendes. S'il y a un coût à baisser dans les entreprises, c'est bien celui-là. À l'usine où j'ai du coupage, où je travaille, il y a aussi des menaces de licenciement sous prétexte de résultats déficitaires. Quand DIL a repris OG en 2007, il y avait 230 travailleurs dans l'usine. Il en reste aujourd'hui 190. Et il en resterait à peine plus de 150 si nous les laissons faire. DIL, qui fait chaque année des bénéfices, prête avec intérêt de l'argent à l'usine de Besançon. En clair, la holding siphonne une partie du produit de notre travail. Et puis, pourquoi un groupe comme DIL aurait repris une usine déficitaire, une usine pas rentable? Le prétexte des pertes de l'usine de Besançon ne tient pas debout. Comme toutes les autres usines, celle de Besançon contribue à la richesse du groupe DIL, qui a triplé son bénéfice entre 2008 et 2010 pour arriver à 145 millions d'euros. DIL a tout à fait les moyens de maintenir tous les emplois à Besançon et les actionnaires, ils n'en mourraient pas. Pour savoir la réalité des comptes des entreprises, il faudrait que les travailleurs aient accès aux comptes, à tous les comptes, et pas seulement au bilan que la direction est obligée de fournir au comité d'entreprise et qui ne dit rien des véritables flux d'argent. Maintenant, qui doit faire des sacrifices? Nous, les travailleurs, dont le travail est notre gagne-pain, indispensable pour se loger, se nourrir et élever nos enfants? Ou les actionnaires qui, quelle que soit l'entreprise, ont entassé, année après année, des montagnes de bénéfices? Poser la question, c'est y répondre. Il faut prendre sur les profits pour sauver le gagne-pain des travailleurs. Cela veut dire interdire tout nouveau plan de suppression d'emplois et maintenir les salaires de tous les travailleurs en puisant sur les bénéfices. Alors oui, il n'est pas question d'accepter cette nouvelle saignée dans les effectifs. Il n'est pas question d'accepter qu'ils continuent à réduire une partie croissante des travailleurs au chômage. À l'Alstom également, les actionnaires augmentent leurs profits en supprimant des emplois. Sarkozy s'est beaucoup vanté d'avoir sauvé l'Alstom en 2004. Il a sauvé les actionnaires d'Alstom, ça oui. Le groupe est redevenu très rentable dès l'année suivante. En 2010, Alstom a fait 1,2 milliard de bénéfices, sur lesquels les actionnaires ont croqué 360 millions, dont le tiers, 120 millions, sont revenus à Bouygues, le principal actionnaire du groupe. Et pour 2011, les dividendes des actionnaires ont explosé. Ils ont augmenté de 48%, tandis que les salaires, eux, n'augmenteront même pas de 2%, moins que l'inflation. Voilà pour les actionnaires. Pour eux, ça va bien. Pour les travailleurs, c'est une autre histoire. Les plans de suppression d'emplois se sont succédés. Et aujourd'hui encore, c'est une centaine de travailleurs qui vont perdre leur emploi avec la fermeture de 2 ateliers à Belfort. C'est dire que l'Alstom, comme tous les grands groupes, a transformé les emplois liquidés en bénéfices supplémentaires pour les actionnaires. Les patrons suppriment des emplois, et le gouvernement aussi, afin de rembourser la dette, une dette contractée pour sauver les banques et subventionner les grandes entreprises. Du coup, ce sont les services publics qui sont abandonnés. Dans les hôpitaux, le manque de personnel est dramatique. À l'hôpital de Montbéliard, il manque 40 postes d'infirmières et les médecins des urgences dénoncent périodiquement leur incapacité, faute de moyens, à faire face aux demandes. Quant au CHU de Besançon, comme dans la plupart des hôpitaux du pays, les comptes sont en déficit. Un déficit fabriqué parce qu'on ne donne plus aux hôpitaux les moyens nécessaires. Auparavant, les hôpitaux avaient une dotation pour fonctionner. Maintenant, la règle, c'est ce qu'ils appellent la tarification à l'activité, dans le jargon de l'administration, la T2A. Pas assez d'activité et l'hôpital est déclaré pas rentable. Et son budget, dans le rouge. La recherche de la rentabilité à tout prix se traduit par le renvoi des malades chez eux afin de libérer des lits au plus vite. Pour le personnel hospitalier, c'est une vraie dégradation des conditions de travail et de vie. Pour la population, c'est déshumaniser les séjours à l'hôpital. Cette dégradation touche tous les services publics. Des centaines de postes d'enseignants sont menacés de suppression. Une politique qui représente une véritable catastrophe sociale et humaine. Ainsi, dans le Jura, 6 communes sur 10 n'ont plus d'école communale. En 10 ans, le département a déjà perdu 110 postes d'instituteurs et les pouvoirs publics voudraient en supprimer encore 55, sans compter la disparition des dispositifs mis en place pour aider les élèves en difficulté, comme les RASED. Le gouvernement n'a pas de mots assez forts pour dire qu'il y a un problème de formation, mais il enlève les moyens pour l'éducation, ce qui est dramatique, surtout au début de la scolarité des enfants dans le primaire. Alors, oui, comme nous le scandons dans les manifestations, il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment les usines, qui ferment les écoles. En tout cas, à Lutte ouvrière, nous sommes bien persuadés que c'est par la seule intervention des travailleurs que nous pourrons mettre un coup d'arrêt à la régression sociale que patrons et gouvernement organisent. Là-dessus, je passe la parole à notre camarade Nathalie Arthaud.